comment avoir confiance en ses projets? C'est une des questions que vous m'avez posées et c'est une question qui m'a hanté pendant toutes mes études et qui me hante encore aujourd'hui. Et la réponse courte, c'est que il n'y a pas de réponse magique pour commencer à avoir confiance en ses projets. Mais il y a un chemin. Il y a un chemin que j'ai emprunté et c'est un chemin qui a porté ses fruits. Et qui porte ses fruits actuellement. C'est même ce chemin que j'ai emprunté et qui m'a donné la confiance de poster mes vidéos aujourd'hui. Pour vous la faire courte et pour vous raconter un peu l'histoire, j'ai commencé mes études en 2017. Et en 2017, je sortais fraîchement d'un bac scientifique au lycée Descartes. Et le truc, c'est que j'y connaissais rien en architecture. Et quand je vous dis que j'y connaissais rien, je connaissais peut-être deux architectes, ou trois. Frank Gehry, Zaha Hadid et Tadao Ando, qui est un peu le premier architecte avec qui je suis tombé amoureux. Enfin, je suis tombé amoureux de son travail, je trouve que son architecture est incroyable. J'ai même un bouquin dédicacé pour vous dire. Et donc, j'arrive en école d'archi, et je suis là, et je me dis, enfin des études que je kiffe, enfin quelque chose où je peux exceller, enfin, et quelque chose qui sera facile pour moi. Je pensais que ça serait automatique. Et en fait, la vie, elle a ce joli petit effet, c'est cette jolie petite particularité de te foutre des baffes quand tu crois que t'es trop fort. Et en fait, cette première année a été extrêmement difficile. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, peut-être pas tout, mais la majorité de ce que je produisais en termes de projets architecturaux était nul. Je me faisais casser la gueule par mes profs. Pour vous dire, une des anecdotes qui m'a le plus marqué, c'est que dans un projet où j'ai eu 12, un projet où il fallait jouer avec la lumière, et il fallait faire un espèce d'espace de muséal, un espace pour faire des expositions, où il fallait jouer sur la lumière. Et j'avais décidé de jouer sur les trois états de la lumière, c'est-à-dire l'obscurité absolue, la lumière partielle, et enfin l'ouverture au paysage. Et en fait, j'étais tellement à côté de la plaque dans tous mes autres projets que pour un 12 sur 20, mes profs ont dit « c'est un miracle ce que tu nous as fait là, Anas ». C'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas que j'étais capable de faire ce genre de choses, et intrinsèquement, je ne me pensais pas capable de réussir. Et ça, ça m'a poursuivi pendant toutes mes études. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour commencer à prendre confiance en moi? Et ça a mis du temps. Et c'est qu'à partir du master où j'ai commencé à vraiment prendre confiance en mes projets. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est peut-être ce que vous voyez là, c'est la maquette d'un de mes projets. Bon, elle est un peu cassée. Désolé si vous écoutez ça en audio et que vous ne pouvez pas la voir. Mais pour vous le décrire, c'est un espèce de logement dans un bâtiment qui est serpentin, c'est-à-dire qui ondule. Et l'idée, du coup, c'est qu'il y a zéro angle droit. Et comment j'ai conçu l'intérieur, c'est avec des espèces de murs qui viennent découper de manière perpendiculaire le bâtiment et qui viennent avoir des zones. En fait, la seule zone fermée, c'est les toilettes. Et après, tout le reste, je l'ai géré avec des espèces de rideaux. Et pour arriver à ce point-là, parce que je me disperse un petit peu, pour avoir confiance en ce projet-là, il a fallu que je fasse énormément d'erreurs avant. Et en fait, pour moi, le seul conseil à donner quand on n'a pas confiance en ses projets, c'est de faire le plus de projets possible. C'est d'expérimenter le plus possible. Mais pas d'expérimenter en mode « Ah, je vais tester ça, c'est une idée folle dans ma tête », non. Il faut identifier très objectivement ce qui te manque. Et moi, ce qui me manquait, c'était la culture architecturale. Alors, ayant la chance d'être à Paris pour mes études, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à la photographie. Et pour moi, c'était une excuse pour sortir et prendre en photo des super beaux bâtiments à Paris. J'ai commencé à faire ça. Je me suis abonné, vous pouvez voir en fond, à plusieurs magazines d'architecture, AMC, c'est les deux auxquels je me suis abonné, j'ai commencé à lire de plus en plus, à acheter énormément de bouquins, des bouquins chez ta chaîne, et ce genre de choses. Et en fait, au fur et à mesure de ces lectures-là, bah, tu commences à voir, en tout cas pour les Français, tu commences à voir ce qu'est de la bonne architecture. Et tu commences à avoir des opinions dessus. Et en fait, petit à petit, tu commences à voir les erreurs que tu commettais qui faisaient du mal à ton projet. Parce qu'en fait, dans ton projet, c'est pas forcément l'idée en elle-même qui fait que c'est pourri. Et j'ai limite envie de dire que l'idée même derrière ton projet, ton parti pris architectural, c'est même pas le plus important. C'est peut-être, en tout cas dans tes premières années d'architecture, c'est l'exécution qui pêche. C'est les petites erreurs comme quand t'as une porte qui est ouverte dans la mauvaise direction. Ça peut être des espaces qui sont trop petits ou trop grands. Ça peut être le fait que il n'y a pas une bonne structure, ta structure n'est pas réaliste et ton bâtiment ne tient pas. Et ce genre de choses, en fait, tu l'apprends avec des exemples. Ce genre de choses, tu l'apprends en voyant ce qui fonctionne, en copiant ce qui fonctionne. Ouais. Parce qu'en fait, si de base, t'as pas vraiment, comme moi, de talent inné pour l'architecture, copie ce qui a été fait. Alors, quand je te dis copie, c'est pas tu sors à 100% le bâtiment, mais essaye de voir ce qui fonctionne. Tu ship, je sais pas, tu veux faire un bâtiment en bois, tu regardes les meilleurs bâtiments en bois, tu regardes comment ils sont construits, tu essayes de comprendre comment ils sont, de comprendre la proportionnalité de ces bâtiments-là. Et donc, il faut que tu commences à accumuler des preuves envers toi-même que tes projets commencent à être cohérents. Et ces preuves-là, n'hésite pas à aller le plus possible aux corrections. Et pour ceux qui ne le savent pas, les corrections en études d'archi, c'est des moments où tu vas montrer les avancements de ton travail envers tes profs. Alors, ça peut être il y a certains profs qui vont juste passer du temps à vous casser la tête, à vous dire non, ça c'est de la merde, ça c'est moche, ça c'est pas bien, ça marche pas. Et bon, ça fait mal quand tu entends ça, parce qu'en général, tu mets tout ce que tu as dans tes projets. Mais c'est aussi des conseils extrêmement précieux. C'est-à-dire que tu dois garder en tête ta ligne directrice, ce que tu veux faire avec ton projet, mais tu dois prendre en compte les critiques pratiques que font tes professeurs. Quand ils te disent, généralement, c'est « Ah, ton couloir est trop grand, tu pourrais l'arrêter plus tôt. » Ou bien « Ah, fais gaffe, je sais pas, cet espace est trop grand. » En fait, avoir confiance en ses projets, c'est maîtriser son discours. Et c'est vrai qu'avant, je vous disais, le plus important pour un architecte, c'est de savoir dessiner. Je le pense toujours. Mais ce qui est aussi super important, c'est de maîtriser son discours et sa communication. C'est de communiquer l'essence de ton projet. Et pour ça, je vous conseille d'apprendre, ou en tout cas, faites une recherche. Apprenez ce que c'est le storytelling. Et apprenez à raconter l'histoire de votre projet. Parce que finalement, la qualité de vos projets, c'est pas le nombre de documents que vous allez faire ou à quel point vos documents sont bien dessinés. C'est important. Mais vos documents, ils sont là pour servir votre propos. Ils sont là pour communiquer la qualité de votre projet. Et donc, techniquement, vous pouvez venir avec, un seul plan, mais tellement bien, et ce plan peut être tellement communicatif, peut montrer tellement que votre projet est bien, et vous pouvez tellement expliciter votre vision à l'oral que le prof est convaincu. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais si je devais résumer en quelques conseils, sors, balade-toi, regarde des bâtiments dehors, regarde comment les gens utilisent ces bâtiments, demande-toi pourquoi tu fais ce que tu fais, et lis beaucoup, trouve des références qui te parlent, comprends comment elles sont faites, comprends comment elles sont construites, comprends pourquoi certains espaces ont les proportions qu'ils ont, pourquoi une chambre est plus petite qu'un salon, par exemple, pourquoi la cuisine est une pièce à part ou non dans tel ou tel projet, et apprends à communiquer l'essence de ton projet. Apprends à expliciter ta vision. Apprends ce qu'est le storytelling et apprends à raconter l'histoire de ton projet. Parce que on aime bien se dire que nous sommes des créatures factuelles. On aime bien la logique. On aime bien que tout soit bien. Et effectivement, oui, il y a une place de logique qui est imparable parce qu'en fait, ton bâtiment doit être construit. Et pour être construit, il doit respecter des règles très claires et très strictes. Mais ton bâtiment, personne ne voudra le construire s'ils ne sont pas convaincus de ton projet. Et pour convaincre les gens, tu les convaincs pas par des faits. Tu les convaincs à un niveau émotionnel. Tu les convaincs en racontant une histoire et en les immergeant dans l'histoire de ton projet. Il faut qu'ils veulent y croire. Il faut qu'ils se disent « Purée, c'est pas mal ça. Là, il y a un truc. Il y a un petit quelque chose qui me fait dire « J'ai envie de voir où ça mène. » Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'en tant qu'étudiant, vos projets, ben, nos projets même, parce que là, j'ai commencé à travailler, ça fait 2 ans maintenant que je travaille dans un cabinet d'architecture. Nos projets, ils étaient vraiment, c'est de la surface. Et en fait, les profs, ils nous valident ces projets-là quand ils voient que cette surface a un potentiel. Ils sont là en mode, ok, je suis peut-être pas d'accord avec la direction qu'il a prise, mais purée, c'est vraiment intéressant. Il va quelque part et il a fait le travail pour. Donc, j'espère que ça répond un peu à tes questions. Et il y avait une autre question à laquelle je voulais répondre et que je trouve vraiment top. C'est, est-ce que tu as déjà eu des doutes concernant ton choix d'études? Alors ça, c'est une très très bonne question. Et la réponse est très claire, oui, j'ai déjà eu des doutes, j'en ai même encore aujourd'hui. Alors que je sais au plus profondément de moi-même que je suis passionné d'architecture, que j'adore ce métier, et que d'un autre côté, je déteste énormément ce métier. Si, c'est normal d'avoir des doutes. Parce que dans notre tête, on se monte ce métier en se disant que c'est la passion. Et vu que c'est quelque chose qui me passionne, ça doit être trop bien tout le temps. Sauf que quand on commence à travailler ou quand on commence nos études, il y a des moments qui sont durs, difficiles. Les premières charrettes, les mauvaises notes, le stress, le travail incroyable, la quantité de travail incroyable qu'on a. Tout ça, on ne l'avait pas prévu et on ne peut pas le prévoir. Et quand on commence à travailler, c'est les patrons ignobles, les projets qui s'annulent, le fait qu'on ne décide plus, les horaires, et en fait qu'on se rend compte que 90% du temps, tu es dans des réunions qui n'avancent pas. Et donc forcément, tu as des doutes. Et comment savoir si la voie que tu as choisie est la bonne ? Quelles questions on se pose quand on se dit « Mais est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que l'architecture, c'est vraiment pour moi ? Est-ce que je ne suis pas en train de m'engager dans un truc qui ruine ma vie ?» Et juste avant de tourner cette vidéo, j'étais en train de me balader et j'écoutais un podcast de Modern Wisdom. Et je crois que j'ai le titre du podcast juste là. C'était un podcast avec David Sutcliffe, « How to stop betraying yourself and be more authentic ». Et il parlait de cette notion de l'authenticité. Et donc l'authenticité, c'est que tes actes et la manière dont tu te comportes est en accord avec toi-même. Et être en accord avec soi-même, par expérience, c'est flippant. C'est le truc le plus flippant que tu feras de toute ta vie. Parce que c'est accepter d'être vulnérable. C'est accepter d'être totalement honnête dans ton projet, te faire défoncer et te dire ce que tu as fait, c'est nul. C'est accepter de faire face à l'inconnu sans avoir aucune garantie que ce que tu vas faire va réussir. Alors, je ne sais pas pourquoi un tel ou un tel devient architecte. Est-ce que c'est pour travailler dans une agence, faire partie d'une grande aventure, construire quelque chose de magnifique, ou est-ce que tu es rentré dans ce métier parce que tu voulais aider des gens, parce que tu as envie que ce que tu construis complimentent la vie des gens, rendent la vie des gens meilleure. Et la difficulté dans l'architecture, c'est que l'architecture est, ou en tout cas le métier d'architecte, est un métier multiple et qui peut être très différent d'une personne à l'autre et d'une agence à l'autre. Effectivement, il y a des choses où on se regroupe, et il y en a d'autres où on ne se regroupe pas du tout. Donc quand tu as des doutes, moi, ce que je pense, c'est que tu dois prendre un moment sans distraction et que tu te poses des questions, mais que tu sois honnête envers toi-même. Parce que dans la vie, tu auras toujours des moments chiants, des moments nuls, des moments où tu vas souffrir. Parce que, en fait, ça ne serait pas intéressant si tout ce qu'on faisait dans la vie, c'était une réussite directe ou si c'était trop facile. Et qu'importe ce que tu feras, même si tu penses que c'est ta passion, il y aura des moments où tu seras là et tu te diras « Pourquoi je fais ça ? Pourquoi est-ce que j'endure ça ?» Et par exemple, fais le test. Et regarde un peu le passé. Essaye de te remémorer les moments où c'était vraiment difficile. Si tu as fini tes études, essaye de te remémorer ton PFE. Est-ce que c'était un bon souvenir pour toi ? Ou est-ce que c'était un très mauvais souvenir ? Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on se dit que c'est un mauvais souvenir, mais quand on y repense un peu, ben on dit « Ah ouais, c'était quand même une bonne période. » C'était une bonne période, mais pourquoi est-ce que c'était une bonne période ? Est-ce que c'était une bonne période parce que tu aimais ton travail ? Parce que tu, d'un certain côté, la charrette, c'était des bons moments ? Est-ce que c'était des bons moments parce que tu te donnais à 200% dans quelque chose dans lequel tu croyais ? Ou est-ce que c'était un bon moment parce que tu étais là avec tes amis et que vous souffriez ensemble ? Parce qu'il y a de ça aussi. Des fois, si on se rappelle vraiment, ce sont des bons souvenirs d'une charrette, alors que dans une charrette, on est plutôt là en mode « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer ? Je vais mourir !» Bah, si on a des bons souvenirs, c'est en général parce qu'on a eu des gens avec qui ces moments nuls étaient beaucoup moins nuls. Et ce que je veux dire avec tout ça, c'est que ces moments de souffrance, eh bien, il y a des souffrances qu'on tolère, il y a des souffrances qu'on ne tolère absolument pas. C'est par exemple ce qui pousse certaines personnes à démissionner. C'est que la souffrance liée à leur travail, les interactions avec leur patron ou la nature du travail qu'ils faisaient, ça les faisait souffrir à un point où ils ne pouvaient pas le tolérer. Il y a des personnes qui décident de se lancer dans leur propre projet. Et à titre d'exemple, moi, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube et ce podcast, ça a amené beaucoup, beaucoup de souffrances. Des souffrances liées aux performances des vidéos que je sors. Parce que des fois, il y a des vidéos qui marchent énormément, comme la vidéo sur le stade Hassan II. Et il y a des vidéos qui ne marchent pas du tout, mais qui peut-être marcheront dans le long terme. Il y a ces moments où tu dois dire non à des gens et leur dire « Désolé, je ne peux pas venir ce soir, il faut que je travaille sur ma vidéo. » Mais ça, c'est le genre de souffrance que moi, personnellement, je suis capable d'endurer et que j'aime bien endurer. C'est une souffrance que j'ai choisie. Parce que j'ai envie de vous parler, parce que j'ai envie de partager ma passion et j'ai envie de montrer un peu ce que c'est le métier d'architecte sans pour autant l'enjoliver. Et j'ai envie d'explorer ce que c'est et évoluer en tant qu'architecte et évoluer dans ma manière de concevoir. Mais surtout, de ne pas devenir un architecte qui est trop déconnecté de ce pourquoi il construit, c'est-à-dire pour abriter les gens. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est quel genre de souffrance je suis prêt à endurer ? Quel genre de souffrance est fait pour moi ? Parce que la seule vérité qu'on a dans cette vie, il y a deux vérités. Un, on va tous mourir un jour. Et deux, on va souffrir. Ça, c'est... On va souffrir. Tout le monde dans sa vie va souffrir. Tout le monde. Et donc, au bout d'un moment, quelle souffrance est-ce que je peux endurer ? Et quelle souffrance je ne veux absolument pas endurer ? Est-ce que, par exemple, la souffrance de, si tu te lances à ton compte, de ne pas savoir si ça fonctionnait, si ça va fonctionner, d'être tout seul, de bosser à fond sans savoir si ce que tu fais va vraiment fonctionner un jour et va vraiment marcher, est-ce que c'est quelque chose que tu te sens capable de supporter ou pas? Ou est-ce que tu préfères être salarié dans une boîte, de t'épanouir dedans, mais d'un autre côté, ne pas être forcément libre dans les décisions que tu prends, ne pas être libre de choisir les projets, ne pas être libre de la décision conceptuelle du projet, ce genre de choses. Est-ce que tu es prêt à endurer ça? Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise raison, parce que, en fait, ça concerne toi en particulier et personne d'autre. Il y a des gens pour qui le salariat est trop bien et il y a des gens pour qui le salariat est horrible. Et ça ne dépend que de toi. Et donc, si tu as des doutes, et avoir des doutes, en fait, même si c'est ta passion, même si tu t'es convaincu que c'est ce que tu veux faire dans ta vie, eh ben c'est normal. Faut pas que tu te sentes mal d'avoir des doutes. Et au contraire, au lieu de les fuir, il faut les explorer. Il faut les explorer. Parce que c'est que en te jetant dans la gueule du loup, en faisant ce pas qui te fait si peur, que déjà, un, tu te rendras compte que tes peurs, elles étaient peut-être un peu exagérées ou totalement fondées, mais tu auras un début de réponse. Et peut-être que derrière cette peur et ces doutes que tu as, en explorant un peu là-bas, tu trouveras une manière de mieux diriger ou de mieux aligner tes objectifs. Faut pas voir sa vie comme une ligne droite qui va vers quelque part, parce que ça fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai tendance à voir mes choix et ma vie avec une sorte de compas. Le compas m'indique une direction générale, mais j'ai aucune idée de comment je vais faire pour y arriver. Et quand je dis que j'ai aucune idée de comment je vais faire pour arriver à cette direction, pour tendre vers cette direction, c'est qu'on sait pas de quoi la vie est faite. Et je pense que le meilleur exemple de ça, c'était le confinement. On avait tous des plans avant le confinement, en se disant « ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça », et puis boum, on se retrouve coincé chez nous. Et la seule leçon que ça m'a appris, c'est qu'en fait, la vie, on ne sait pas ce qui arrivera demain. La vie est faite de doutes. Et à nous, c'est notre responsabilité, à nous, de choisir où est-ce qu'on va se diriger. Dans quelle direction les doutes qu'on va rencontrer sont plaisants. Donc si tu as des doutes pendant tes études ou pendant que tu es salarié, explore-les. Si jamais tu trouves au final que l'architecture c'est pas pour toi, c'est pas grave. C'est même mieux, c'est une super chose. Parce que tu auras trouvé quelque chose qui ne soit pas fait pour toi. Et si au final tu trouves que les doutes sont liés à ton environnement de travail ou bien à la nature des projets que tu fais, là tu as une opportunité de rediriger ton compas, ta direction vers quelque chose qui te convient. Je pense que je sais pas, j'espère que ça a répondu à ta question. En tout cas, je pense que l'introspection, c'est essentiel pour savoir si on va dans une bonne direction ou non. J'ai envie de continuer, prendre une autre question. Et je vais peut-être finir sur celle-là. J'ai pas envie que ce soit non plus un épisode qui soit super long, mais j'espère que c'est un épisode qui vous sera utile, en tout cas j'espère. Je vais prendre deux questions encore. Et quel conseil tu donnerais à une étudiante ou un étudiant en architecture pour réussir ses études? Pour rebondir en fait sur ces questions et sur les questions précédentes, qu'est-ce que tu aimes en architecture? Et en fait, sois honnête avec toi-même. Ne te muselle pas. C'est-à-dire que quand tu fais un projet, et franchement, ça, je l'ai regretté sur les projets où je l'ai fait, et tu vas toujours le regretter, parce qu'en fait, c'est si tu te muselles, tu enlèves à toi-même la capacité de faire des choix et de les assumer. C'est-à-dire que si ton projet ne marche pas, bah là, c'est plus de ta faute, entre guillemets. Enfin, tu t'es auto-limité. Donc, ce que je veux dire, c'est ne te limite pas en te disant « Ah, mais le prof, il va pas aimer. » On s'en fout. On s'en fout de ça. Donc, un conseil pour réussir tes études, c'est documente-toi beaucoup. Ça, c'est primordial. Fais-toi une culture architecturale. Lis des bouquins, mais surtout, sors. Va visiter des bâtiments, parce que, en fait, c'est une chose de voir des photos, et si tu as écouté mon podcast avec Harrison, il l'a dit lui-même, il n'y a rien de mieux que de voir un monument ou un bâtiment qui t'intéresse de tes propres yeux. Parce qu'il n'y a pas que le visuel dans l'architecture, il n'y a pas que le visuel. Il y a le toucher. Il y a les odeurs. Ah ouais, hein, ça on n'en parle pas assez, mais les odeurs en architecture, ça compte. Il y a l'acoustique. Quand tu es dans un bâtiment, il y a une acoustique différente. La matérialité n'est pas que visuelle, il y a le toucher. Et tout ça crée une ambiance. Et c'est peut-être ce que j'ai essayé d'explorer avec ma dernière vidéo sur comment arrêter le temps. Il y a un sentiment que la bonne architecture, en fait, provoque un sentiment en nous. Et donc, pour réussir tes études, il faut que tu apprennes à communiquer avec ton architecture. Il faut que tu apprennes à maîtriser ton discours. Je pense que maîtriser ton discours, c'est peut-être le meilleur conseil que je puisse te donner. Parce que maîtriser ton discours, c'est maîtriser ta narrative et emmener le jury, les professeurs et tes futurs clients là où tu veux qu'ils aillent. Parce que en maîtrisant ton discours, en apprenant le storytelling, et par storytelling, tu peux prendre une structure très simple comme initiation, état d'initiation, problématique, élément perturbateur, péripétie et résolution. Et si je prends un exemple, l'état initial, c'est le site. Voilà le site où je suis. Tu le présentes et tu mets en valeur les problématiques et tu mets en valeur les caractéristiques qui te semblent importantes. Et en fait, ces caractéristiques qui te semblent importantes vont te diriger vers un problème que tu essayes de résoudre. Un problème, bah, ça peut être plein de choses. Ça peut être, je sais pas, tu es dans une ville et cette ville a besoin d'espace culturel. Ça peut être une première problématique. C'est une problématique programmatique. Qu'est-ce qu'il y a besoin dans ce territoire? Les gens ont besoin de quoi? Ça peut être une problématique liée au terrain. On a un terrain qui est en pente. Comment est-ce qu'on va habiter cette pente? Est-ce que c'est vraiment judicieux de l'habiter? Il y a une question au niveau des accès. Peut-être que c'est une friche industrielle qui se met entre la ville et le bord d'un lac. Et comment on va gérer pour faire un accès vers le bord du lac? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être des questions de l'ordre écologique? Construire, oui. Mais comment construire sans dégrader? Et donc, ça va amener une question intéressante. Et cette question, bah, elle va intriguer. C'est-à-dire que ton jury, les personnes en face de toi, elles se diront, OK, je suis curieux. Comment est-ce que tu proposes de résoudre ça? Et là, tout ton discours va être construit pour expliquer ton raisonnement aux personnes. C'est-à-dire, voilà comment j'ai résolu cette question. Il y avait tel truc, il y avait tel problème, donc j'ai mis en place tel principe, et voilà ce que ça donne. Mais, je sais pas, on va dire, je construis en pente. En haut de la pente, il y a les habitants, la ville. En bas de la pente, il y a les espaces culturels. Sauf que la pente, bah les gens, ils doivent faire un super détour en voiture pour pouvoir y aller. Donc, problème. Comment est-ce que les gens peuvent faire? Et donc voilà, si tu maîtrises ton discours, tu peux amener les gens où tu veux. Et surtout, tu peux maîtriser la narrative. C'est-à-dire que s'il y a des points dans lesquels tu ne veux pas parler, et que ce n'est pas des points si importants que ça, tu n'as pas forcément besoin de les mentionner. Tu mets le projecteur là où tu veux que le projecteur soit, pour que les personnes, c'est-à-dire ton jury, tes clients et un tel, te posent des questions. Là où tu veux qu'il te pose des questions. Donc apprends à communiquer. Et bien sûr, apprends à dessiner. Et je vais te dire, en vrai, les logiciels, c'est même pas le plus important. Parce que les logiciels, tu les apprendras en agence. Donc, pour moi, le plus important, c'est fais-toi une culture architecturale solide, apprends à communiquer tes projets. Et si tu as ces deux trucs, ces deux éléments avec toi, ben, je pense que ça ira. J'ai pas envie que le podcast soit super long, donc je pense que je vais m'arrêter ici. Peut-être que je ferai un épisode la semaine prochaine pour vous parler un petit peu de ma HMO. Et normalement, j'aurai fini tous les partiels à ce moment-là. Peut-être que j'en ferai un dans un mois, je sais pas. Les interviews vont reprendre. C'est juste une question un peu compliquée d'organisation, parce que les architectes sont occupés. Donc si vous avez trouvé cet épisode utile, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc., bah, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment pour le podcast. Et abonnez-vous.